France Musique.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Céline Parfenoff, Martine Moni, José Bernès, Emmanuel Rose et Olivier Deshaies. Voici la première émission d'une série que nous allons consacrer à la vie de Napoléon Bonaparte en musique, deux siècles après la mort de l'empereur qui s'éteint le 5 mai 1821 sur l'île de Sainte-Hélène à l'âge de 51 ans. Napoléon Bonaparte qui suscite de nombreuses polémiques, que ce soit sur les exactions de ses armées, comme les massacres en Espagne, les expropriations, les pillages, les morts sur les champs de bataille, l'assassinat du duc d'Enghien et bien sûr le rétablissement de l'esclavage en 1802. Nous y reviendrons car c'est chronologiquement une histoire de son épopée en musique que je propose en 5 émissions, en écoutant tout d'abord l'une des premières musiques entendues par Bonaparte. La musique de la langue corse, Napoleone Imperatore.
Imperatore, tu fusti imperatore, un degno re dei nostri vincitori, di libere, di ricelti, di rumore, di rimorri. Ancubore, San Piero, sappi pronti a farti onore.
Ancubore, San Piero, sappi pronti a farti onore.
Oh, Napoleone, oh, Napoleone. Isola terza, odi destino strano, a Santa Elena fu la tua tomba in vano. Ingiuliato, incarcerato, in mano martirizzato, sotto uomo di Parigi dormi e regni mai domato.
Sotto uomo di Parigi dormi e regni mai domato.
Oh Napoleone, oh Napoleone.
Dans ton orgueil et ton amour, la sainte famille est rentrée. Les exilés sont de retour, les exilés sont de retour. Oh, les voici, victoire, victoire, qu'ils soient fêtés dans sa maison. L'enfant prodigue de la gloire, Napoléon, Napoléon. Plus tard, après les pyramides, dans nos murs il revint encore, avec les mamelucs, les guides, l'Annemura, l'état-major, l'Annemura, l'état-major, lui portait la capote grise, le sabre turc, le chapeau rond, avec cette seule devise, Napoléon, Napoléon. Avec cette seule devise, Napoléon, Napoléon. À genoux, citoyens et frères, son ombre descend parmi nous. Dans Ajaccio, sur nos pierres, citoyens, frères à genoux, citoyens, frères à genoux, que sur nos places, dans nos rues, l'on entende plus que ce nom, du fond du cœur jusqu'aux aunées, Napoléon, Napoléon.
Vous avez sans doute reconnu la voix du Corse Tino Rossi chantant l'Ajaxienne, une chanson de 1848 qui célébrait le retour des exilés dans l'île de Beauté, comme Jérôme Bonaparte, par exemple, frère aîné de l'empereur. Et avant cela, c'est une enfant de Cargèse en Corse, Marta Angelici, membre de l'Opéra Comique à Paris, qui chantait en 1954 et en langue corse un hommage à Napoléone. Marta Angelici, qui est morte en 1973 à Ajaccio, non loin de la statue du plus célèbre enfant de la ville, Napoléon Bonaparte, dont nous évoquerons donc tout au long de cette semaine, à travers des chants, des hymnes, des opéras, des messes, toute la carrière, ce qui trouve une résonance particulière dans cette épopée napoléonienne. Aujourd'hui, nous évoquerons plutôt l'ascension militaire et politique d'un soldat de la Révolution française, né à Ajaccio le 15 août 1769, au sein d'une famille de la petite noblesse corse, qui compte, outre Napoléon, 4 frères et 3 sœurs, dans une Corse appartenant à la France depuis l'année précédente, 1768. Le deuxième fils de la famille Napoléon fera pendant 5 ans ses études militaires à Brienne, le château, dans l'Aube, dans cette champagne humide où le temps permet quelquefois aux élèves de se lancer dans de stratégiques batailles de boules de neige. Et c'est Bonaparte qui se rend ensuite à Paris, lieutenant en second, lorsqu'éclate la Révolution française. Et le jeune Corse connaît son ascension à Toulon, une ville occupée par les Britanniques en 1793 et dont il fait le siège sous les ordres du général Dugommier. Le canonnier Bonaparte s'illustre par ses premiers faits d'armes. Redevenu français, c'est le cœur de l'armée française dirigée par Serge Zapolsky que nous entendions dans ce chant de Charles-Simon Cattel, élève de Gossec et musicien de la garde nationale. Hymne sur la reprise de Toulon, un hymne qui promet aux Anglais une revanche qui conduirait les Français sur les bords de la Tamise. L'armée républicaine remporte une victoire décisive sur une coalition britannico-italo-espagnole à laquelle s'étaient ralliés les royalistes français. Une victoire qui sera suivie de l'exécution sommaire de plusieurs centaines de Toulonnais et une grande partie des bateaux français seront détruits ou récupérés par les Anglais. Et c'est avec des couleurs sombres que le compositeur Marius Constant avait illustré cet épisode de Toulon dans cette musique qu'il avait écrite pour le film Napoléon d'Abel Gance, monument du cinéma muet. reprenant les éléments composés par Arthur Honegger pour le Napoléon d'Abel Gance en 1927 avec Albert Dieudonné dans le rôle-titre. Marius Constant avait complété la partition en 1992 et c'est lui qui dirigeait ici l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo dans ce passage illustrant le siège de Toulon en 1793 qui offrira à Bonaparte son grade de général de brigade. Mais la situation politique très instable de cette époque le met en disponibilité. Il vit alors de sa demi-solde dans l'hôtel du Cadran Bleu, rue de la Huchette. On lui donne quand même l'occasion de mater les insurrections royalistes de 1795 près de l'église Saint-Roch qui portera longtemps les stigmates de la mitraille avec des dizaines de morts. Mais c'est encore au sud que Bonaparte va cueillir ses lauriers, en Italie. On l'attend une campagne militaire anthologique évoquée par Stendhal au début de la Chartreuse de Parme. Le 15 mai 1796, le général Bonaparte fit son entrée dans Milan à la tête de cette jeune armée qui venait de passer le pont de Lodi et d'apprendre au monde qu'après tant de siècles, César et Alexandre avaient un successeur.
Soldats, vous avez en 15 jours remporté 6 victoires, pris 21 drapeaux, plusieurs places fortes, conquis la partie la plus riche du Piémont. Dénué de tout, vous avez suppléé à tout. Vous avez gagné des batailles sans canon, passé des rivières sans pont, fait des marches forcées sans souliers, bivouaqué sans eau de vie, et souvent sans pain. Soldats, la patrie a le droit d'attendre de vous de grandes choses. Justifierez-vous son attente. En est-il entre vous dont le courage s'amollisse? Non, il n'en est point. Tous brûlent de porter au loin la gloire du peuple français. Tous veulent, en rentrant dans leur village, pouvoir dire avec fierté « J'étais de l'armée conquérante d'Italie ».
Peut-être reconnu la voix de François Castan, qui fut longtemps producteur sur France Musique. C'était la première des 3 fanfares pour des proclamations de Napoléon. Musique de Jacques Castered, composée en 1955, et ici jouée par le grand ensemble de cuivres et percussions des Hauts-de-France, dirigé par Bernard Calmel. La France est alors gouvernée par un directoire et vit une situation économique très critique. Ces guerres patriotiques de défense se transforment de plus en plus en attaques conquérantes. Bientôt, Bonaparte fait la conquête du Piémont. Le roi de Sardaigne se rend. Les Autrichiens capitulent à Mantoue et le bouillant général impose son commandement à une armée de 38 000 hommes, mal vêtus, mal nourris, devant lesquels il prononce cette charte de l'armée d'Italie que l'on vient d'entendre.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Et pendant ce temps-là, Claude Balbastre, l'organiste de Notre-Dame de Paris, rebaptisé le Temple de la Raison, adapte son répertoire aux nouvelles circonstances.
Thank you.
en 1985 sur l'orgue de Saint-Germain-des-Prés, enregistré par Radio France. André Izoard jouait la marche des Marseillais et Saïra de Claude Balbastre, qui malgré tous ses efforts mourra oublié de tous à Paris en 1799. Au moins avait-il sauvé sa tête, et peut-être grâce à cette partition. Je sens que je suis destiné à des actions d'éclat que le monde ne soupçonne pas. Voilà ce que déclare Bonaparte à son aide de camp Murat pendant cette campagne d'Italie, avec Arcole, Lodi, Rivoli. Voilà des noms de victoire qui forment le socle de la légende napoléonienne, aussitôt évoquée en musique par le compositeur Jacques-Marie Beauvarlet-Charpentier. Lui, il était organiste de Saint-Germain-des-Prés et de Saint-Eustache à Paris. Et en 1796, ce Jacques-Marie Beauvarlet-Charpentier décrit la fureur des combats dans La victoire de l'armée d'Italie ou La bataille de Montenotte. Et il reprend le chant du départ de Méhul, composé en 1794, La victoire en chantant.
Thank you.
C'est de nouveau André Izoard, mais cette fois-ci sur l'orgue de Saint-Séverin à Paris, qu'on entendait là dans un extrait de La Victoire de l'armée d'Italie de Jacques Beauvarlet-Charpentier. Voilà le genre de musique explosive qui avait le don d'agacer un contemporain, André Modeste Grétry. Une manie s'accrédite maintenant, d'autant plus dangereuse qu'elle en impose au commun des auditeurs, c'est celle de faire beaucoup de bruit. Il semble que depuis la prise de la Bastille, on ne doive plus faire de musique en France qu'à coups de canon. Si nous n'y prenons garde, nous dessécherons l'oreille et le goût du public. Fin citation. Et Bonaparte, à cette époque, est loin de ses éclats, puisqu'il est en Italie. Il signe alors de son propre chef le traité de Campo Formio, qui met fin à ses campagnes et donne à la France la Belgique, les pays de la rive gauche du Rhin, les îles Ioniennes. Une république cisalpine est formée en Italie, embryon de la république italienne qui sera le royaume d'Italie. Bonaparte s'isole, lui, du bruit des batailles pour écrire à sa bien-aimée Joséphine de Beauharnais des lettres magnifiques. Un amour évoqué par Heinrich Kallmann dans une partition méconnue qui s'appelle « L'impératrice Joséphine », « Kaiserin Joséphine », créée à Zurich en 1936 avec un Napoléon transi d'amour.
Ich bald zum Feinde haben, Schade, wenn Sie mir die schönsten Frauen entführen. Sie ist die herrlichste Frau, die ich je gesehen habe.
Ja, wieso hast du sie denn nicht zum Tanz aufgefordert?
Ich bin doch kein Tänzer.
Und wie kann man so schüchtern sein?
Ja, du, und deine schöne Uniform. Aber ich...
Thank you.
Le ténor Vincent Schirmacher interprétait le rôle de Napoléon dans cette opérette d'Emmerich Kallmann, Kaiserin Joséphine, l'impératrice Joséphine, enregistrée en 2017 par l'orchestre Franz Lehár, dirigé par Marius Burkert. Joséphine de Beauharnais, enfant de la Martinique, que certains soupçonnent d'avoir influencé Napoléon dans sa décision de rétablissement d'esclavage en 1802, ce qui a entraîné la destruction de la statue de Joséphine en Martinique en 2020. Et cette question divise encore les historiens pour expliquer l'origine de cette effroyable décision de Napoléon, décision vraisemblablement économique et politique que nous évoquerons demain en parlant de l'année 1802, décision qui restera l'un des aspects les plus négatifs de cet homme, même pour ses admirateurs contemporains.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Le général Bonaparte a fait trembler les murs de l'Europe, notamment ceux du vaste empire autrichien, un tremblement que Joseph Haydn a répercuté dans une de ses œuvres de 1796, alors que la campagne d'Italie battait son plein, tambour battant. Haydn fait résonner dans sa Paukenmesse, la messe des timbales, un inquiétant roulement de tambour qui caractérise l'approche des soldats français, première grande œuvre témoignant des combats de cette époque.
Thank you.
Missa in tempore belli, messe en temps de guerre. Tel est le sous-titre de cette partition de Joseph Haydn, Paukenmesse, messe des timbales, qui évoque musicalement en 1796 la menace des troupes napoléoniennes. C'était le Concertus Musicus de Vienne et le chœur Arnold Schönberg dirigé par Nikolaus Harnoncourt dans l'Agnus Dei finale. Haydn, l'année suivante, 1797, écrit à la demande de l'empereur François II, un hymne que le maître fait aussitôt retentir en quatuor à cordes, un hymne que voici tout d'abord chanté par Dietrich Fischer-Dieskau, que Dieu protège l'empereur François, Gott erhalte Franz den Kaiser.
Gott erhalte Franz den Kaiser, unseren guten Kaiser Franz, lange lebe Franz dir Kaiser, in des Glückes hellstem Glanz, immer blühen Lorbeer Reiser, wo er geht zum Ehrenkranz. Gott erhalte Franz den Kaiser, unseren guten Kaiser Franz. Gott erhalte Franz den Kaiser, unseren guten Kaiser Franz.
Thank you.
Günther Pichler et Klaus Metzel, violon, Hatto Beyerle, alto, et Valentin Erben, violoncelle, c'était le quatuor Alban Berg. Dans le deuxième mouvement, Poco Adagio Cantabile, du quatuor en Do majeur, opus 76, numéro 3 de Joseph Haydn, dans lequel il tisse ses variations sur ce thème qu'il avait écrit en 1797, Gott erhalte Franz den Kaiser, une mélodie qui sera tour à tour hymne de l'Autriche, puis de l'Allemagne, une histoire assez compliquée que nous n'allons pas évoquer, ça nous égarerait. Alors revenons à Napoléon pour cette première émission du bicentenaire de sa mort. Les triomphes de Napoléon inquiètent le directoire à Paris, la popularité du Corse pouvant faire de l'ombre au directeur du directoire. Il faut donc l'éloigner le plus loin possible et on l'envoie donc combattre en Égypte sous domination ottomane afin de mettre la main sur la Méditerranée et de bloquer la route des Indes aux Britanniques. En mai 1798, Bonaparte retrouve Toulon, qu'il avait libéré 5 ans auparavant, et il atteint victorieusement Malte, Alexandrie et enfin Le Caire. Seulement, il va trouver face à lui un adversaire à sa taille, le contre-admiral Horatio Nelson, qui avait participé au siège de Toulon et qui avait depuis perdu un œil et un bras dans les batailles. C'est dans la rade d'Aboukir, près d'Alexandrie, en Égypte, que le 1er août 1798, Nelson défait l'escadre française du vice-amiral de Bruet. Certes, Bonaparte parvient à repousser les Turcs. Il médite sur les 40 siècles des pyramides qui nous contemplent, mais les Anglais remportent cette campagne d'Égypte. À Londres, on acclame Nelson de retour au pays. Et Joseph Haydn, encore lui, écrit une cantate évocatrice de la fureur des combats. Une cantate qui annonce un peu les musiques descriptives des poèmes symphoniques ou de l'accompagnement musical de films muets. Voici un extrait de « La bataille du Nil » de Joseph Haydn sur France Musique.
Thank you.
Les solides pyramides témoignent du choc et leur base vacille en tremblant. Le Nil, recouvert de débris, la fumée ondulante, les bannières captives, scelle la malédiction de la hautaine France et brise son insupportable joug. Louange éternelle à ton nom, grand Nelson. C'est la soprano Susan Riden, accompagnée au pianoforte par Mark Tatlov, que nous entendions dans cet extrait de la cantate de Joseph Haydn, Lines from the Battle of the Nile, vers tirés de la bataille du Nil, joué dans la résidence du prince Esterhazy, dont Haydn fut longtemps le compositeur officiel, en présence de Nelson, ainsi que de Lord Hamilton, avec son épouse Emma, la fameuse Lady Hamilton, maîtresse de l'amiral, Lady Hamilton dont la dame de compagnie avait écrit ses vers de Mirliton. Lady Hamilton chantera d'ailleurs cette cantate à plusieurs reprises, et Haydn profite de la présence de Nelson pour sortir de ses tiroirs une messe qu'il avait surnommée la messe des angoisses, Missa in Angustis, et il la rebaptise la Nelson Messe, là encore une œuvre indirectement liée à Napoléon, et que voici sur France Musique.
Hey!
Le Kyrie introductif de la Missa in Angustiis, messe des angoisses ou messe pendant l'angoisse liée au contexte des guerres napoléoniennes en Europe. Une messe écrite avant la rencontre de Haydn avec l'amiral Nelson, mais qu'il lui destine avec ce surnom de Nelson Messe. Et c'est Trevor Pinnock qui dirigeait en 1986 The English Concert. Vous avez peut-être reconnu la voix de la soprano, c'était Felicity Lott.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
La campagne d'Égypte est au cœur d'un film de Youssef Chahine qui réalise en 1985 « Adieu Bonaparte » avec Morsen Moghieddine, avec Michel Piccoli et Patrice Chéreau dans le rôle de Bonaparte, tout cela sur une musique signée Gabriel Yared. Un extrait de la bande originale du film « Adieu Bonaparte » de Youssef Chahine, musique signée Gabriel Yared avec quelques inflexions orientales pour évoquer cette fameuse campagne d'Égypte. Le 9 novembre 1799, 18 brumaires en 8 selon le calendrier révolutionnaire, c'est la naissance par un coup d'état d'un nouveau régime politique qui met fin à la Révolution française, c'est le consulat et là encore on sort les trompettes. Au compositeur préféré de Napoléon, Giovanni Paisiello, que nous devons cette marche du premier consul, écrite en 1799. Napoléon Bonaparte, aux côtés de deux autres, était donc ce premier consul qui dirige désormais la France. Bonaparte, grand amateur de musique italienne, avait profité de son séjour transalpin pour inviter à Paris ce compositeur napolitain, né à Tarente, Giovanni Paisiello, qui avait pourtant soutenu les Bourbons, mais il profite de l'opportunité sans se soucier de ses détails politiques. Et Paisiello sera grassement payé par le consul Bonaparte pour diriger la chapelle consulaire avatar à peine déguisé de la chapelle royale de l'Ancien Régime. Paisiello écrira une partie de la messe du Sacre, nous y reviendrons. Paisiello qui, avant Rossini, avait composé un Barbier de Séville, d'après la pièce pré-révolutionnaire de Beaumarchais, qui meurt lui le 18 mai de cette année 1799.
Qualcuno la sorprese. Che spirito, che brio! Figaro, credi tu che a me si doni?
Credo, pria di mancar, che passeria attraverso di quella gelosia.
Rosina in questo dì sarà mia sposa. E se lei, signor Figaro, mi serve senza far con nessun parola alcuna.
Oh, Figaro, vola alla fortuna. Vostra eccellenza vada a casa mia e porti seco l'abito da soldato, il biglietto d'alloggio e ancor dell'oro.
E dell'oro? Perché?
perché a dir la signore schiettamente, senza un poco d'or non si fa niente.
Non dubitar, o Figaro, non dubitar, o Figaro, dell'oro porterò, dell'oro porterò.
Benissimo, signore, benissimo, signore, ora ritornerò, ora ritornerò.
Ehi, Figaro!
Eccellenza!
Ascolta, abbi pazienza! Prendi la tua chitarra,
la prendo e me ne do.
La tua dimora ho smolido,
così gliela dirò, così gliela dirò, gliela dirò, gliela dirò. La mia bottega è a quattro passi, tinta celeste, vetri inghiobati, con tre bacini sovrattaccati, per te insegna uno che vado, con sì. Sarò.
Va bene Figaro,
io la sarò, io la sarò, io la sarò.
Va bene Figaro,
io la sarò, 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 io la sarò.
C'est Nicola Monti, ténor di Grazia, comme on appelle cette voix délicate qui chantait en 1959 la cavatine du comte dans Le Barbier de Séville de Giovanni Paisiello, sous la direction ici de Renato Fasano avec Rolando Panerai en Figaro. Voilà un opéra créé en 1782 à Saint-Pétersbourg, donc bien avant Le Barbier de Rossini et même avant Les Noces de Figaro de Mozart, opéra de Paisiello d'après Beaumarchais et qui connaîtra de nombreuses reprises illustrant le genre de musique qu'adorait Napoléon, loin des tambours et des canons. Alors le destin de l'empereur a été montré à plusieurs reprises au cinéma. Nous évoquions le légendaire Napoléon d'Abel Gance en 1927, qui fait d'ailleurs l'objet depuis des années d'une immense restauration, dont on devrait voir le résultat cette année. J'évoquais tout à l'heure Youssef Chahine. En 1955, c'est Sacha Guitry qui présente son Napoléon, 3 heures de film avec toute la vie de l'empereur de 1769 à 1821, sur une musique de Jean Français, dont voici quelques extraits en version pianistique tout d'abord, avec Martin Jones et Adrian Farmer. On va entendre tout d'abord Marche militaire enfantine, donc l'enfance de Napoléon en Corse, Brienne, c'est sa formation militaire, la soirée chez Barras, et puis la Monaco.
Thank you.
Voilà un motif composé par le compositeur de chant français pour ce Napoléon de 1955 réalisé par Sacha Guitry. Tout d'abord, on entendait ce motif par Martin Jones et Adrian Farmer au piano et à l'instant, c'était l'orchestre symphonique de Marc Langean pour la bande originale du film de ce long métrage de 3 heures avec Daniel Gélin en jeune Bonaparte, avec Raymond Pellegrin en Napoléon, Michel Morgan joue Joséphine, Sacha Guitry prend le rôle de Talleyrand qui lui va si bien et on remarque également le géant du cinéma Erich von Stroheim qui joue le rôle de Beethoven jouant au piano des motifs de sa 3e symphonie, l'Héroïque, d'abord dédiée à Bonaparte. La dédicace sera déchirée, on en parlera demain. De ce film de 1955, on retient Un plaisir d'amour chanté par Luis Mariano qui a un petit rôle et puis également cette chanson des Maréchaux avec Armand Mestral et un jeune chanteur encore peu connu, Yves Montand. La chanson des Maréchaux sur un texte de Sacha Guitry mis en musique par Jean Français avec Armand Mestral et Yves Montand. En cette période, fin 18e siècle, début 19e siècle, le grand compositeur, c'est bien sûr Joseph Haydn. On l'a entendu à travers des partitions comme l'hymne Gott erhalte den Kaiser, les messes, messe Nelson, messe des timbales, la musique de Haydn qui accompagne l'épopée napoléonienne, qui la commande parfois avec la bataille du Nil, et même de façon indirecte avec la création. Voilà une partition que Haydn a écrite entre 1796 et 1798, créée à Vienne en 99, Et c'est en 1800 que les Français découvrent cette œuvre, tout d'abord à Lille, le 3 novembre 1800, et puis le soir de Noël 1800 à l'Opéra de Paris, sous la direction d'un certain Jean-Baptiste Rey, qui a traversé l'Opéra dans toutes ses tempêtes, étant le directeur de l'orchestre de 1781 à 1810, l'année de sa mort. Jean-Baptiste Rey qui sera l'un des maîtres de chapelle de Napoléon, et qui doit donc diriger cette fameuse soirée du 24 décembre 1800 avec la création de Haydn. Une soirée qui va pas se passer c'est tout à fait comme elle était prévue. On va écouter tout d'abord un extrait de cette merveilleuse partition dont le début représente le chaos originel. Et Raphaël chante « Au commencement, Dieu créa le ciel, la terre était informe et vide, l'obscurité régnait à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, es werde Licht und es war Licht. » Et là, c'est une explosion orchestrale que propose Joseph Haydn. Et Dieu vit la lumière qui était bonne, et Dieu sépara la lumière et l'obscurité. C'était donc un extrait de la création de Joseph Haydn, chanté par Christian Gerhaher avec le chœur Arnold Schoenberg, le Concentus Musicus de Vienne, dirigé par Nikolaus Harnoncourt.
À réécouter sur francemusique.fr.